Marc chapitre 9, versets 11 à 12. Et ils l'interrogeaient en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. » Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Aujourd'hui, nous poursuivons notre nouvelle série sur le troisième Élie. C'est la deuxième partie. Le troisième Élie. C'est un terme intéressant, mais que nous avons vu qui est justifié par la parole de Dieu. Nous avons vu cela, nous en sommes arrivés à cette conclusion par notre étude précédente, notre exposé biblique. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est poursuivre cet exposé en élargissant certains des points que nous avions relevés. Cette deuxième partie est intitulée « Le rétablissement de toutes choses ». Le rétablissement de toutes choses. Faisons un bref récapitulatif de ce que nous avions pu conclure par notre étude de la parole de Dieu la dernière fois. Donc je reviens sur ce que nous avions vu. Notamment, nous avions conclu par notre étude précédente que, premier point, la Bible annonce bien la venue d'un autre Élie. Nous avions vu cela à travers les versets bibliques que nous avions parcourus. En effet, la Bible annonce bien la venue d'un autre Élie. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Pour cela, nous en sommes certains. Nous avons conclu également que Jésus lui-même a identifié Jean-Baptiste comme le premier accomplissement de la promesse et prophétie de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. C'est ce que nous avions lu, vous vous souviendrez. Je vous renvoie à cette étude précédente. Nous allons ici partir sur les bases que nous avions établies la dernière fois. Nous allons construire. Donc nous avons vu que, deuxième point, que Jésus a bien identifié Jean-Baptiste comme le premier accomplissement de cette prophétie et promesse de Malachie, chapitre 4. Et nous avons vu qu'il a également annoncé un autre Élie à venir, à savoir le troisième. C'est ce que nous avions vu dans Marc. Nous allons y revenir d'ailleurs. Troisième point, nous avons conclu que ce troisième Élie que Jésus avait annoncé et vers lequel la prophétie initiale de Malachie chapitre 4 tendait originellement, ce troisième Élie pourrait être identifié par des caractéristiques bien définies que la parole nous fournit. Nous avons vu ces caractéristiques que nous allons brièvement survoler aujourd'hui pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, quelle est l'identité biblique de cet Élie promis? Nous sommes vraiment en train de fouiller des ruines ici, de la parole de Dieu, et de trouver que bel et bien ici, il y avait une maison. Vous voyez? Avant que ce soit enseveli et que l'on ait mis des tonnes de traditions par-dessus. Traditions, ce sont des fabrications de l'homme. L'homme a fait à travers les années, et notamment à travers ces nombreux siècles depuis le départ et le lancement de son Église apostolique, de l'Église apostolique de Christ, l'homme a démoli et ensuite a construit d'autres choses par-dessus les anciens fondements. Donc ici, nous sommes en train de d'abord démolir par notre étude de la parole de Dieu, et ensuite de fouiller, faire des fouilles archéologiques, pour ainsi dire. des choses qui furent d'antan prophétisées, annoncées et crues et présentées. Quelle est l'identité de cet Élie? Ces caractéristiques que nous avions explorées la dernière fois sont, et je cite, le troisième Élie doit rétablir toute chose. Premier point. J'ai changé l'ordre ici par ordre d'importance, on va dire. Le troisième Élie doit rétablir toute chose. Deuxième point, il portera un message de tempérance. Troisième point, il ira dans l'esprit et la puissance d'Élie. Quatrième point, avec un esprit intergénérationnel de réconciliation. Je n'y reviens pas. Nous avions établi ce fondement la dernière fois. Nous avions trouvé ces fouilles archéologiques. Nous avions trouvé ces anciens fondements. Ils étaient là. Ils étaient là sous la terre et les décombres et le gravat. Ils sont profondément bibliques. Et maintenant, nous voulons nous concentrer sur un aspect tout particulier de ces caractéristiques qui permettent d'identifier ce troisième Élie. Nous voulons aujourd'hui nous pencher tout particulièrement sur ces paroles de Jésus qui suivent de notre lecture biblique par rapport au rétablissement de toute chose, qui est le sujet de cette deuxième partie. Dans Marc chapitre 9, versets 11 à 12, nous y revenons. Nous allons nous rafraîchir la mémoire de la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Marc chapitre 9, verset 11. Certains venaient à Jésus et lui posaient ces questions-là. Verset 11. Et il l'interrogeait en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Parce que les scribes avaient une connaissance de la parole de Dieu et ces personnes-là qui venaient à Jésus en avaient peut-être moins et ils demandaient comment ça se fait, d'où ça leur vient cela. Ils s'en référaient de toute évidence à cette promesse de Malachie qui dit que cet Élie à venir doit venir avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Et Jésus leur répondit, verset 12, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toute chose et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. » Ensuite, il a dit au verset 13 que Élie est déjà venu, à savoir que Jean-Baptiste était déjà le premier accomplissement de cette promesse. Mais, comme nous l'avions vu la dernière fois, et j'y reviens, Jean-Baptiste fut le précurseur de Jésus, mais il n'a pas rétabli toute chose. À savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avions conclu la dernière fois, Jean-Baptiste n'était que le premier accomplissement et un accomplissement partiel de cette promesse de Malachie que Dieu enverrait Élie, le prophète. Allez avec moi encore une fois dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous y revenons parce que ce sont des fondations que nous avons découvertes, mais si on n'y revient pas, on serait peut-être tenté de penser que ces choses n'existent pas. Personne n'a construit ici. Personne. On a rêvé. Non. Actes chapitre 3, verset 19. Je le lis tel que c'est marqué dans la Bible Osterwald 1996, et ensuite je vais vous donner comme c'est écrit dans la Bible King James. De 1611. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc, disait Pierre, sous l'esprit d'inspiration, repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis les âges. Je lis maintenant, tel que c'est marqué dans la Bible King James, notamment à partir du verset 19 et au verset 20. Le verset 21 ne change pas. Repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés quand les temps de rafraîchissement seront venus de la part du Seigneur et il vous enverra Jésus-Christ qui vous a été annoncé auparavant. Vous comprenez? Donc le tracé linéaire historique de cette annonciation prophétique de Pierre sous l'esprit d'inspiration est que nous devrions nous repentir afin que nos péchés soient effacés quand les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. À savoir, les temps de rafraîchissement viennent, cette pluie de l'arrière-saison vient, afin que dans cette même période, nos péchés soient effacés, purification du sanctuaire, et que les rafraîchissements nous viennent de la part du Seigneur, et il vous enverra Jésus-Christ. À savoir, et Jésus reviendra. Ce qui est marqué au verset 21, que le ciel, Jésus est dans le ciel, que le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu avait parlé avant, autrefois. Qu'est-ce que nous relevons ici? Le ciel doit recevoir ou retenir, comme c'est marqué dans la Bible Martin, je crois, contenir Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc Jésus fut crucifié, fut enterré dans le tombeau, ressuscita, monta au ciel, et maintenant le ciel doit recevoir et contenir, retenir Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. Jusqu'à quand Jésus doit-il rester au ciel ? Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc vous voyez, nous retrouvons ici le rôle précurseur et préparatoire du troisième Élie. Comment ? Parce que le rétablissement de toutes choses doit avoir lieu avant le retour de Jésus. Et nous avions lu dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 que je rafraîchis notre mémoire, Malachie chapitre 4. Dieu promet d'envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 9, verset 12, que Élie, en effet, doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Vous avez tout relié ici, tous ces points. Nous allons dans Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Voilà les paroles qui annonçaient la venue de Jean-Baptiste. Ces paroles se réfèrent directement à lui. Il est écrit « Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les lieux montueux deviendront une plaine et les lieux raboteux une vallée, alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Comme c'est marqué dans la Bible d'Arbi, une voix crie dans le désert de point préparer le chemin de l'Éternel. Quelle était cette voix qui criait dans le désert? N'était-ce pas Jean-Baptiste lui-même qui était parti vivre dans le désert, dans la solitude du désert de la Judée? N'est-ce pas? Et donc, ici, Jean-Baptiste avait un rôle précurseur et préparatoire. Et la gloire de Dieu fut révélée, manifestée en Christ, qui lui-même pouvait dire « Je t'ai glorifié sur la terre ». N'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste annonça Jésus, la venue de Jésus, et il disait, vous vous rappellerez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en lien avec son rôle précurseur, nous pouvons lire au verset 5 que « Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée ». Jésus disait Je t'ai glorifié sur la terre, en parlant au Père dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai manifesté ta gloire. Quelle est la gloire de Dieu? Son caractère. Jésus a montré le caractère de Dieu. Jésus a montré aux hommes ce que les hommes ne pouvaient pas voir parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Tu ne peux pas me voir et vivre. Vous comprenez? Donc, Jésus fut incarné dans la chair humaine qui est la même que la nôtre, afin que nous puissions regarder Dieu face à face et contempler le caractère de Dieu sans la gloire physique éblouissante et destructrice de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un feu consumant. C'est-à-dire que Dieu, si nous sommes en sa présence, pécheurs tels que nous sommes, nous serions consumés. Et donc Dieu eut la miséricorde de nous manifester qui il est vraiment, en contradiction avec ce que le diable dit qu'il est, mais caché sous le voile de l'humanité, afin que nous puissions le regarder. Comme c'est marqué dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Nous avons pu contempler sa gloire, comme bien même nous ne pouvions pas jadis contempler la gloire de Dieu, parce que Ésaïe, je vous rappelle, dans chapitre 6, avait vu Dieu dans cette vision, le trône, Dieu sur son trône assis avec les pans de sa robe qui remplissaient tout son temple, et il entendit les anges proclamer « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, et il dit « Malheur à moi, parce que je suis impur, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il disait « Je vais mourir. » Mais en Jésus, nous avons pu voir la gloire de Dieu manifestée sans mourir. Et Jean-Baptiste était un précurseur de cette gloire en Christ. Et maintenant, nous trouvons le même langage de ce même rôle, mais cette fois-ci, du troisième Élie. Dans Malachie chapitre 3, versets 1 à 4, Malachie, chapitre 3, et versets 1 à 4. Maintenant, notez bien, frères et sœurs, notez bien chaque aspect de cette annonce, ici, dans Malachie, pour voir si vous discernez déjà dans l'accomplissement historique quelque chose qui corresponde à cette déclaration. Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'Alliance que vous désirez. « Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel. » Et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Donc nous voyons ici une activité de purification du peuple de Dieu qui est annoncée sous les auspices du troisième Élie. Est-ce que c'est marqué ou est-ce que je le dis? Regardez ici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi. Donc vous direz peut-être, c'est Jean-Baptiste. Sauf que quand vous regardez, là il y a quelque chose de beaucoup plus large. Parce que nous lisons au sujet de cette période, lorsque ce messager vient, que le Seigneur entrera soudain dans son temple et que le jour de cette venue-là, dans son temple, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il sera assis fondant et purifiant l'argent. Il y a quelque chose qui se passe dans lequel Dieu, et tout particulièrement le Seigneur, Jésus, est impliqué dans une activité de purification dans laquelle il peut superviser toute une activité de purification pour tout son peuple depuis son temple. Est-ce que ce serait son temple terrestre? Avait-il une telle capacité de supervision depuis le temple terrestre? D'autant plus qu'il n'était pas accepté dans ce temple-là quand il fut sur la terre. Donc il s'agit non plus seulement du deuxième Élie, mais de l'activité sous les auspices du troisième Élie, annoncé. Je vais vous envoyer mon messager, il préparera la voie devant moi. La voie pourquoi? Pour le grand et redoutable jour de l'Éternel qui vient. À savoir, celui qui est présenté dans Apocalypse chapitre 16, dans Apocalypse chapitre 18 plutôt. Apocalypse chapitre 18, verset 8, « C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur qui la juge est puissant. » Parlant de Babylone. Donc, ce jour-là, grand et terrible jour de l'Éternel qui va venir, c'est un jour prophétique, à savoir une année entière pendant laquelle ces plaies-là seront déversées. Et Dieu annonce que ce troisième Élie viendrait avant ce temps-là, avant que ce grand et redoutable jour de l'Éternel vienne. Et maintenant, concrètement, frères et sœurs, donc nous voyons ici que dans Malachie chapitre 3, au début de ce chapitre, nous avons la même annonce qui nous est présentée dans le chapitre 4, versets 5 à 6. C'est le même messager dont il est question ici. Celui au sujet duquel Jésus disait qu'il doit venir rétablir toutes choses, afin que le ciel ne retienne plus Jésus, afin que la voie soit préparée pour le retour du Seigneur. Vous comprenez? Et donc, maintenant que nous avons vu ces éléments ici, nous avons élargi cette identité de l'Élie et sa place dans la prophétie, dans l'histoire. Concrètement, quel est ce rétablissement annoncé? Ce rétablissement de toutes choses dont Jésus parlait et dont l'apôtre Pierre aussi, sous l'esprit d'inspiration, parlait. Ce rétablissement prérequis pour que Jésus-Christ revienne sur terre. Que faut-il rétablir? Qu'est-ce qui est tombé en ruine? Ce sont les réponses auxquelles nous voulons trouver des réponses, sont les questions, auxquelles nous voulons trouver des réponses bibliques. Et pour y répondre, tout de suite, sans tergiversation, tournez-vous avec moi vers le passage de Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Versets 1 à 2. Et le verset 1 à 2 nous permet d'avoir le contexte par lequel nous savons dans quel contexte se trouvent et se placent les paroles du verset 12 à 14 qui nous intéressent tout particulièrement. Quel est le contexte? Ésaïe chapitre 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Pourquoi? Quel est leur péché tout particulier ici? Dans ce contexte de d'un travail qui prépare la voie pour le retour du Seigneur. Déclare mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Car, verset 2, car jour après jour ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent s'approcher de Dieu. Verset 3, pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prises garde et affligé nos âmes sans que tu le connusses? Voici que dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté et vous traitez durement vos mercenaires, etc. Donc Dieu dit ici, car, voilà, annonce-leur cela, car ils veulent me connaître, ils me cherchent, comme s'ils avaient pratiqué, comme s'ils faisaient, ils faisaient tout comme il faut, et comme s'ils, c'est marqué au milieu du verset, comme s'ils n'avaient pas abandonné la loi de leur Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, ici, de cette déclaration d'introduction, nous lisons maintenant au sujet de ce rétablissement de toutes choses, pour lequel la Bible elle-même nous donne une définition. Je répète, la Bible elle-même nous donne une définition de ce que ce rétablissement de toutes choses serait, qui préparerait la voie pour le retour de Christ. Ésaïe 58, verset 12. Ici, s'adressant à Dieu et parlant de ce peuple, il est écrit « Les tiens, ceux qui sortent de toi, rebâtiront les antiques ruines, tu relèveras les fondations des anciens âges, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorables, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quel est ce rétablissement, frères et sœurs, bibliquement parlant? Quel est ce rétablissement? Il s'adresse au peuple de Dieu et ensuite il dit les tiens, ceux qui sortiront de toi, ta postérité, plus tard, il arrivera que ceux qui croient comme toi rebâtiront, ceux qui croient en Dieu comme toi, rebâtiront les antiques ruines. Ensuite, il s'adresse à eux, il s'adresse au peuple, ensuite il s'adresse à ceux qui sortiront de ce peuple d'Israël, et il dit « Tu relèveras les fondations des anciens âges, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. » Comment? Si quoi? Si tu retiens ton pied au jour du sabbat. Est-ce que vous avez un éclairage ici sur quelle est l'identité de cet Élie auquel est confiée la mission du rétablissement de toute chose? Nous avions déjà un indice au verset 2, parce que au beau milieu, voilà la scène ici qui est présentée, au beau milieu d'un christianisme moderne qui cherche à se rendre agréable à Dieu, tout en, je cite, tout en abandonnant la loi de son Dieu, la loi de Dieu, la loi des 10 commandements, la prophétie nous présente un peuple particulier. Notez bien ici, un peuple. Que font ce peuple? Que font ces personnes? Ils rebâtiront les antiques ruines et relèveront les fondations des anciens âges, et on les appellera, je cite, le réparateur de brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Vous voyez ici le lien avec Ésaïe chapitre 40 que nous avions lu juste avant, qui annonçait l'identité du deuxième Élie, de Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, qui préparait le chemin, qui aplanissait le chemin, qui comblait les vallées et écrasait les collines, hein, qui relève les affligés et qui abat les orgueilleux. Eh bien ici, ce peuple-là, qui coïncide avec cette annonciation de Malachie chapitre 4 et de Malachie chapitre 3 et de Marc chapitre 9 verset 12 par Jésus qui est cimenté par les paroles d'Actes chapitre 3 verset 19 à 21, ce peuple-là, nous lisons à leur sujet, parce qu'ils sont plusieurs, remarquez, les tiens rebâtiront, c'est le pluriel, hein, c'est la troisième forme du pluriel, ils. Je, tu, il, nous, vous, ils au pluriel, la troisième forme du pluriel, les tiens rebâtiront les antiques ruines, et ensuite, tu relèveras les fondations des anciens âges, et on t'appellera le réparateur de brèches. Que vous notez ici, frères et sœurs? Ils sont plusieurs, mais la Bible parle d'eux comme un. Vous le notez? Donc, est-ce que cela fait sens de dire que cet Élie, le prophète, c'est en réalité pas une seule personne, mais plusieurs? C'est en réalité pas un seul prophète, mais un peuple. Vous notez ici, je n'ai fait que lire. Les tiens, ils sont plusieurs, et ensuite, Dieu dit, on t'appellera le réparateur. Pas les réparateurs des brèches, le réparateur des brèches. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une seule mission. C'est un message, c'est une mission, c'est un peuple. Vous discernez, frères et sœurs? Nous avons lu la parole de Dieu ici. Nous avons conclu à partir de la parole de Dieu, et que relève-t-il? Que relève ce peuple-là, ce troisième Élie prophétisé et promis? Il relève la loi de Dieu. Quelle loi? Vous le lisez au verset 13. On t'appellera cela, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins pour rendre le pays habitable, si tu retiens ton pied au jour du sabbat. Quel sabbat? Le même sabbat qui fut le sabbat des Israélites, sabbat du septième jour. Pas un jour sur sept, mais le septième jour. Parce que c'est le septième jour que Dieu bénit dans Genèse chapitre 3, si je ne m'abuse. Allez-y brièvement. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée, et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Et donc, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, et Dieu dit, on t'appellera le restaurateur des chemins, le réparateur de brèches, si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour. Vous voyez? Quel est son saint jour? Le jour auquel il a achevé son œuvre qu'il avait faite et qu'il a béni et sanctifié. Tel est son saint jour. Vous comprenez? Quel est le saint jour de Dieu? Celui que lui a rendu saint, sanctifié. C'est ça que ça veut dire. Être sanctifié, c'est être rendu saint. Quand Dieu sanctifia le septième jour, il le rendit saint et cela devint donc son saint jour. Et donc le troisième Élie que Dieu a promis et que nous sommes tous appelés à écouter et à rejoindre, c'est celui qui répare cette grande brèche dans la loi de Dieu. Quelle est cette brèche? C'est le quatrième commandement, la grande brèche. Elle est énorme, la brèche est énorme, tout passe à travers, une armée, tout, une armée. Le diable fait des allers-retours dans cette brèche. Du sabbat. Sabbat du septième jour, le jour que Dieu bénit et sanctifia. Est-ce que je veux me retenir mon pied au saint jour du sabbat, au jour que Dieu a béni? Si Dieu a béni le septième jour, mais que je me comporte comme s'il avait transféré cette solennité au premier jour, mais que la Bible n'en dit rien, que suis-je en train de faire? Je suis en train de ne pas retenir mon pied, mais en train de fouler au pied le jour saint du Seigneur, que lui-même a béni et sanctifié, et que le monde entier, la grande majorité du monde chrétien a abandonné. Parce que quand il est écrit que ce peuple au verset 2, Ésaïe chapitre 58 verset 2, car jour après jour ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent s'approcher de Dieu. Ils veulent plein de choses de Dieu, ils demandent la justice de Dieu. Or éclaire-nous Seigneur, mais ils ont abandonné la loi de Dieu. Mais qu'ont-ils abandonné dans la loi de Dieu, si ce n'est précisément la loi, le commandement qui disent qui était pour les Juifs? Ou qu'ils disent que la solennité a changé, elle a été transférée du septième au premier jour. Dieu désire en de tels moments, en une telle période, désire avoir un peuple qui puisse relever ses fondations des anciens âges, afin que il appelle le sabbat ses délices, un peuple qui apprécie ce que Dieu apprécie et que ce que Dieu a consacré et ce qui est consacré à Dieu lui-même, un peuple qui honore le sabbat plutôt que de suivre ses voies, plutôt que de faire sa propre volonté, plutôt que de dire des paroles vaines, tout le temps et tout particulièrement en ce jour-là. Et donc, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons en déduire bibliquement que ce messager de Malachie chapitre 3 verset 1, cet Élie le prophète de chapitre 4 verset 3, est en fait un peuple, un groupe de personnes qui assument une et même mission, comme jadis les prophètes de l'Ancien Testament, auxquels étaient confiées des missions bien particulières et souvent individuelles. Par exemple, Ésaïe, Jérémie, notamment Malachie, Michée, Osée, tous avaient des missions particulières, Daniel, qui leur était propre et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des livres qui leur sont propres, mais qui sont inspirés de l'Esprit de Dieu et qui ont des thèmes, qui sont souvent thématiques aussi, par rapport aux besoins du peuple de Dieu avec qui ils étaient en lien direct. Et maintenant, regardez avec moi, est-ce que nous pouvons trouver plus encore dans le Nouveau Testament cet Élie, ce troisième Élie, mais présenté en d'autres termes, tout à fait complémentaires et en aucun cas contradictoires. Dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, etc. Verset 12. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et donc vous voyez que il s'agit ici de l'évangile éternel, verset 6, parce que c'est l'évangile qui a été entièrement rétabli à sa pureté d'origine, d'où le terme. Et au verset 12, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ceux qui, pour reprendre les paroles d'Ésaïe, ceux qui rebâtissent les antiques ruines. Est-ce que vous voyez le lien entre du verset 6 à 12, entre cet Élie annoncé au sujet duquel il était écrit qu'il doit rétablir toutes choses. Ces personnes-là, vraisemblablement, observent toute la loi de Dieu. Ils n'ont pas abandonné la loi de Dieu. Vous comprenez? Et à la suite de ce triple message, vous lisez au verset 14, je regardais ensuite, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un d'assis, qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante, etc. Et là, vous avez ensuite le retour de Jésus. D'abord invisible, et ensuite, plus tard, visible et triomphant. Comme c'est marqué dans l'Apocalypse chapitre 1. Il viendra et tout œil le verra. Vous discernez, frères et sœurs. Et donc, maintenant que nous venons de voir le lien entre Ésaïe chapitre 58 et ce passage-là, nous pouvons en arriver à la conclusion que le troisième Élie est le peuple qui, juste avant le grand jour de Dieu et le retour physique et littéral de Jésus, choisit de remplir la mission du messager du Seigneur, lui préparant la voie en relevant les ruines de sa loi foulées aux pieds par le monde chrétien moderne et restaurant dans le cœur des croyants cette foi de Jésus qui lui permit de surmonter et de vaincre la tentation et le péché et ainsi d'obtenir la victoire sur la chair, le monde et le diable. C'est ce qui est marqué ici au verset 12, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc voilà pour notre brève étude aujourd'hui sur cette thématique du rétablissement de toutes choses. J'espère que c'est clair que cet Élie, ce n'est autre que ce peuple des trois anges ici qui sont présentés du verset 6 au verset 12. Voilà, frères et sœurs, puissions-nous nous inspirer de ce passage, tout particulièrement d'Ésaïe chapitre 58, où nous recevons l'exhortation solennelle à observer le sabbat du Seigneur, à la fois, qui comporte une grande valeur à la fois pour nous qui sommes adventistes et pour les autres auxquels ce message d'Élie s'adresse aujourd'hui avec une grande force. Et donc en lien avec cela, dans notre troisième partie, nous allons nous pencher, Dieu voulant, sur le sujet dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour pouvoir tirer des leçons puissantes et inspirantes des expériences et des révélations que nous recevons du prophète Élie dans les événements qui eurent lieu notamment sur le mont Carmel. C'est ma prière que le Seigneur puisse bénir ses pensées dans notre esprit et dans notre réflexion, afin que nous soyons et que nous nous joignions corps et âme à ce peuple qui est un messager, qui n'est qu'un. Car si la Bible le présente comme plusieurs mais comme un, certainement c'est qu'il doit avoir une certaine cohésion profonde, une certaine unité dans la vérité, dans la spiritualité, pas des petits atomes indépendants comme l'esprit de prophétie parle. C'est ma prière que nous puissions vraiment tirer une inspiration de cela dans ce sens. Et on se verra la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.